Le débat du jour. Michael Ponge.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche, rencontre au sommet ce mercredi. Pour la première fois depuis l'investiture du président américain, Donald Trump, que le dirigeant israélien décrivait déjà fin janvier comme une chance formidable pour son pays, le meilleur allié qu'il soit, a répété ce soir Benjamin Netanyahou. Et c'était lors de la conférence de presse commune des deux hommes. Écoutez.
Israël n'a pas de meilleur allié que les États-Unis. Et je veux vous assurer que les États-Unis n'ont pas de meilleur allié qu'Israël. Notre alliance a été remarquablement forte, mais sous votre leadership, je suis confiant que cette alliance va se renforcer encore plus.
Un ton singulièrement différent, un tournant après 8 années de tensions diplomatiques et personnelles avec Barack Obama. Mais ceux qui s'attendaient à un séisme total de la nouvelle présidence américaine sont peut-être déçus s'il a multiplié les déclarations pro-israéliennes durant sa campagne. Donald Trump, depuis, se montre moins pressé. La colonisation, il a appelé tout à l'heure Israël à la retenue. Le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, il l'examine très soigneusement, a-t-il dit. Quant au règlement du conflit israélo-palestinien, eh bien ce n'est pas à lui de décider, écoutez.
Les États-Unis vont encourager la paix, favoriser la paix et un grand accord de paix. Nous allons y travailler de manière très diligente. C'est très important pour moi. Nous voulons absolument réaliser cela. Mais ce sont les parties au conflit qui doivent directement négocier un tel accord.
Alors, Donald Trump est-il le véritable ami d'Israël ? C'est notre débat ce soir.
RFI.
Et pour en parler, deux invités, Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous signez le livre L'invention tragique du Moyen-Orient. C'est aux éditions Autrement et ça va paraître dans quelques jours. En face de vous, dans le studio de RFI, Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur pour votre part de Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne. C'est aux éditions Perrin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Une réaction, messieurs, à cette conférence de presse qui s'est tenue il y a un petit peu plus de 2 heures maintenant. Jean-Paul Chagnolot, peut-être pour commencer, c'est une lune de miel ou ça y ressemble ?
Vous savez, les lunes de miel, il faut plutôt voir comment elles se terminent.
Elles n'ont pas vocation à durer,
non,
forcément.
Pour l'instant, moi je serais très prudent. Il est clair simplement que si on s'en tient aux déclarations de Donald Trump et aux premières décisions qu'il a prises, en particulier la nomination de David Friedman comme ambassadeur sous réserve de l'accord du Sénat
demain,
en Israël, voilà. Je pense qu'on est quand même sur une ligne qui pourrait être en rupture avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis depuis pas simplement Barack Obama, mais depuis des décennies.
En rupture, en tout cas, avec
dans les positions politiques,
des relations très difficiles.
Dans les positions, bon, mais ça, c'est pas les relations difficiles, c'est une chose. Mais je parle de la ligne politique. Mm-hmm. Malgré tout, que ce soit George W. Bush et Obama pour prendre les deux derniers présidents, la ligne, c'était la solution à 2 États, et il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée à l'unanimité, moins une abstention, donc en fait un accord implicite des États-Unis, comme chacun sait. C'était le 23 décembre 2016, il y a quelques jours finalement, quelques semaines, qui rappelait l'importance de la solution à 2 États.
John Kerry, le secrétaire d'État, l'a redit, c'est la seule solution qui va...
Il a fait un discours que j'ai trouvé remarquable d'une heure et un quart, où il a vraiment cadré l'ensemble des problèmes, et puis on peut rajouter aussi, pour pas l'oublier, l'initiative de la France. C'était le 15 janvier dernier qui était justement dans le but de il faut sauver la solution aux États. Donc ce que Trump est en train de faire, sous réserve donc de la suite de la suite de cette lune de miel dont vous parlez, ça pourrait être une rupture par rapport à ça. Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, mais pour l'instant je pense vraiment que la ligne est dans cette direction. On va dans cette direction.
On va s'arrêter évidemment sur cette solution à 2 États. Pierre Razou, d'abord votre sentiment après cette conférence de presse, les États-Unis, meilleur allié qui soit pour Israël, comme l'a dit Benjamin Netanyahou.
Meilleur allié, je ne sais pas, mais allié principal, c'est certain. Il ne faut pas oublier non plus que Benjamin Netanyahou a d'excellentes relations avec Vladimir Poutine, que la Russie est devenue de fait un partenaire clé d'Israël, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire et sur le plan stratégique et diplomatique dans la région. Donc je crois qu'il faut nuancer un petit peu tout cela. Moi j'aimerais faire une référence, j'aimerais essayer de, pour le public, de faire comprendre depuis quand Donald Trump s'intéresse à Israël, et pour dire que c'est un phénomène assez récent. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour parler clairement, Donald Trump s'intéresse à Israël et montre, on va dire, des signes d'affection à Israël depuis deux choses. D'abord, depuis que sa fille Ivanka a épousé Jared Kushner, qui est le principal héritier d'une très grande famille juive très riche dans l'immobilier à New York, et qu'on voit bien là l'alliance, on va dire, un petit peu qui rappelle les alliances des grandes familles au 19e siècle bourgeoises entre les intérêts business comparés. Donc Ivanka se marie et se convertit au judaïsme pour pouvoir épouser Jared Kushner, et on voit bien que, comme souvent, c'est un classique dans l'histoire, on a la ferveur des converties récentes d'Ivanka Trump, qui justement essaye d'en rajouter un petit peu plus sur ce thème-là. Mais c'est surtout depuis que qu'il est candidat à la présidence qu'il s'intéresse à Israël et qu'il a manifesté les déclarations. Pourquoi ? Parce que quelque part, il a peur de la communauté juive en Israël, il a peur, pardon, de la communauté juive américaine, parce qu'il a besoin d'acheter la paix sociale, il a besoin d'acheter en tout cas la neutralité des communautés juives aux États-Unis, qui pourraient être tentées finalement d'aller dans le sens général du Congrès, des élites, des médias, qui consistent finalement à critiquer sa politique, etc. Donc l'impression que j'ai, c'est que Donald Trump a surtout besoin de neutraliser les communautés juives aux États-Unis, aussi bien à New York que à Washington, et que donc il a tout intérêt à trouver un deal, si vous me passez l'expression, avec Benjamin Netanyahou sur le thème, en fait, fondamentalement, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, et là, Netanyahou est surpris, enfin, ça c'était pas tout de suite, évidemment, c'était il y a quelques semaines, et sort sa shopping list, sa liste au Père Noël, en lui disant, voilà, dans l'absolu, voilà tout ce que je voudrais. Et puis Trump lui dit, d'accord, pourquoi pas, allez, allons-y, chiche, mais en échange, évidemment, je veux la neutralité absolue des communautés juives à l'égard de ma politique.
Cette peur pourrait se traduire par des positions fermes. Pour autant, on l'a entendu ce soir lors de la conférence de presse, Donald Trump reste flou sur plusieurs questions, et même peut-être, et ça a été le point le plus ferme de son allocution, au sujet par exemple de la colonisation. Il appelle là à la retenue, ce message, il s'adresse à qui ? À Israël tout entier ou à la frange la plus à droite de Benjamin Netanyahou, qui presse le Premier ministre à justement étendre le territoire israélien ?
Non, l'impression que j'ai, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'adresse à la fois à la frange la plus à droite de l'électorat de Benjamin Netanyahou, il s'adresse aussi à l'électorat juif américain, pour leur dire « ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire la révolution sur ce sujet-là ». Il s'adresse aussi tout simplement à Benjamin Netanyahou lui-même pour lui dire « je vous ai proposé il y a quelques semaines un deal, c'est-à-dire pas d'opposition chez moi, en échange je favorise vos positions sur place ». Mais en même temps, comme je suis un businessman, j'attends de voir. C'est-à-dire que, avant de vous payer, je vais pas vous faire un chèque en blanc. C'est-à-dire que je veux attendre des preuves concrètes, entre guillemets, de la neutralité des communautés juives et du Congrès à l'égard de ma politique. Et si je vois des manifestations concrètes qu'en effet, je n'ai pas d'opposition, alors là, oui, je pourrais éventuellement y réfléchir.
Jean-Paul Chagnolot, une réaction à ce que dit Pierre Razou, c'est pour satisfaire d'abord, ou en tout cas pour répondre à une question intérieure, ces prises de position.
Écoutez, à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer de manière décisive ce genre de choses. C'est une possibilité, effectivement. Mais je crois que c'est lui prêter beaucoup de calcul. Je pense que c'est quelqu'un qui a été un peu comme ça, dans une direction, puis dans une autre. Il se laisse emporter par un certain nombre de coups de gueule avec des facilités, et son entourage tout de même est un entourage qui est très proche effectivement des colons, et il a quand même nommé un ambassadeur. Si on prend les choses très concrètes, parce que bien entendu on peut essayer de faire des scénarios d'interprétation, mais à l'heure actuelle il y a une chose très concrète, c'est la nomination sous réserve de l'accord du Sénat de David Freeman. Alors David Freeman, c'est quelqu'un qui
s'est prononcé
toujours soutenu la colonisation, et pas simplement en parole. Il a une fondation qui finance certaines colonies, notamment Beitel. Beitel, c'est une des colonies les plus importantes et les plus anciennes, qui sont en plein cœur de la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée-Samarie, et puis d'autres aussi dans le nord, du côté de Naplouse. Donc on est quand même dans une démarche qui est évidemment, quels que soient par ailleurs les calculs qu'il peut avoir, s'il en a, ce qui est possible, il est quand même dans une démarche qui objectivement soutient les colons et la partie la plus à droite du gouvernement actuel, qui est déjà très 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 fortement à droite. C'est quand même et surtout ils n'ont pas réagi, puisque là il y a eu des annonces de nouveaux logements par milliers.
5 000, plus de 5 000.
Oui, mais et pour avoir une idée de la population que ça représente, il faut multiplier à peu près par 4, parce qu'un appartement ou une maison égale 4 au minimum. Donc ça fait 20 000 de plus. Nous sommes à plus de 600 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc tout ceci va évidemment rigidifier les positions sur place et légitimer, quoi qu'on en pense, les positions de la droite et de l'extrême droite israélienne.
Pierre Razou, est-ce que Donald Trump n'a finalement, Benjamin Netanyahou n'a finalement pas intérêt à ce que Donald Trump se montre un petit peu plus modéré, par exemple sur cette question de la colonisation, qui, s'il y allait à fond, Donald Trump, ça mettrait Benjamin Netanyahou dans une position embarrassante, du moins ça l'obligerait à trancher sur cette politique de colonisation, d'expansion, et de répondre à sa droite qui le pousse, je pense, à Naftali Bennett, le foyer juif qui veut une expansion permanente, totale.
Peut-être. Ce qui me semble intéressant aussi de noter, c'est que de plus en plus en Israël et dans les différents endroits où on s'intéresse à l'évolution du dossier palestinien, on voit ressurgir un petit peu comme le serpent de mer une nouvelle proposition sur qui date des années 60, qui est très vieille, d'une confédération entre la Jordanie et la Palestine. J'étais étonné de voir ces 10 derniers jours plusieurs articles sortir à la fois aux États-Unis et en Israël pour essayer de ressusciter finalement ce projet de confédération jordano-palestinienne, ce qui est évidemment pas du tout une bonne nouvelle pour le roi Abdallah de Jordanie, mais ce qui, pour des gens qui ne connaissent pas vraiment le dossier, c'est le cas de Trump et de la plupart de ses conseillers, peut être séduisant de prime abord. Et évidemment, pour vendre cette solution, il faut pas être dans la logique de la colonisation à outrance. Donc ça va, en effet, ça concourt à cela. Je voudrais juste dire aussi un point et citer, parce que c'est très intéressant, je trouve ça assez significatif. Ce matin, en Israël, un chercheur relativement connu qui s'appelle Eran Lerman, qui est un commentateur classique des affaires stratégiques, a sorti dans une note de recherche pour le centre de recherche Begin Sadat, où il dit à ses concitoyens, donc aux Israéliens et notamment au gouvernement, soyez prudents. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, de prime abord, comme ça, les gens peuvent se réjouir en Israël de l'arrivée de Donald Trump et de toutes ces déclarations fracassantes qui semblent favoriser Israël. Mais il leur dit 5 choses, très rapidement. Il leur dit, il est très difficile aujourd'hui, malgré les déclarations, de cerner quelle sera réellement l'attitude de l'administration Trump vis-à-vis de l'Iran. Il leur dit aussi, Rex Tillerson, le secrétaire d'État, et James Mattis, le ministre de la Défense, sont très proches des monarchies du Golfe et qui ne sont pas toutes très favorables à Israël. Il dit aussi que Trump n'a aucune connaissance réelle des dossiers et que son comportement impulsif et imprévisible appelle à la prudence parce qu'il pourrait pousser les États-Unis à faire des erreurs graves de calcul. Il dit aussi qu'il n'est pas du tout dans l'intérêt d'Israël de s'allier avec la droite religieuse américaine, et c'est quelqu'un qui est plutôt bien à droite en Israël qui dit ça. Pourquoi ? Parce que cette droite religieuse américaine prône le choc des civilisations et que les Israéliens ne doivent pas oublier que 20% de la population israélienne est musulmane et que les deux principaux alliés de la région d'Israël sont la Jordanie et l'Égypte, qui sont bien entendu deux pays musulmans. Et il dit enfin, et c'est ce qui est sans doute le plus intéressant, que d'après lui, et encore une fois c'est une vision plutôt bien à droite de la politique israélienne, que d'après lui la politique de Trump aboutit à la polarisation du Congrès, à la réticence du Pentagone vis-à-vis, c'est-à-dire du ministère de la Défense américain, allié historique d'Israël, vis-à-vis de toutes les initiatives de la nouvelle administration américaine, et que cela risque de faire voler en éclats le support bipartisan du Congrès à Israël, ce qui est le pire des scénarios pour Israël.
Jean-Paul Chagnolo.
Écoutez, c'est une opinion d'un chercheur. Point à la ligne.
Ce n'est pas la vôtre.
Non, c'est un élément, mais parmi bien d'autres, parce que il faut essayer de regarder un peu l'histoire. Vous parliez du Likoud tout à l'heure. Et en fait, depuis maintenant plus de 35 ans, le Likoud est sur une posture qui consiste à coloniser un maximum. Donc, on est dans ce registre-là. Il faut se rendre compte que ça signifie 600 000 colons en Cisjordanie et puis à Jérusalem. Ça implique qu'il y ait tout un système de discrimination qui écarte complètement les Palestiniens de tout droit élémentaire. Donc on est très loin de telle ou telle position de chercheur. Je veux dire, c'est, il y a une réalité sur le terrain qui est terrible. Et cette idéologie qui est derrière tout ça, elle a été renforcée depuis une quinzaine d'années, disons après la deuxième intifada, qui a vraiment cassé les relations qu'il pouvait y avoir entre Palestiniens et Israéliens à l'époque de ce qu'on a appelé processus d'Oslo. Donc je crois qu'on est dans cette tendance-là. Si il y a eu une résolution du Conseil de sécurité en mois de décembre qui votait à l'unanimité, moins l'abstention, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même le signe qu'au niveau le plus important, le Conseil de sécurité, on s'alarme en disant attention, la solution à deux États... elle est bientôt plus possible. Si la France, dans des conditions très particulières, a fait cette conférence en deux temps, au mois de juin, puis en janvier, c'est aussi parce que on voulait, c'était le thème que Jean-Marc Ayrault défendait, sauver les deux États. Donc, faut faire attention. Donc, nous sommes là. Donc, les interprétations sur ce que va faire Trump ou pas, aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est vraiment un bulldozer qui conduit à ce qu'on grignote toute possibilité d'avoir un État palestinien. En plus, comme les Palestiniens sont divisés entre Gaza, dont on n'a pas parlé, et puis la Cisjordanie, il est évident que le poids aujourd'hui, enfin la puissance est du côté israélien sur le terrain. Donc je crois que c'est vraiment ça. Et donc Trump, quoi qu'il fasse aujourd'hui, à partir des postures, des premières postures qu'il a sous réserve de Jérusalem, parce que c'est plus compliqué, c'est un dossier différent. Parce que ça concerne pas simplement les Palestiniens, ça concerne le monde arabe, ça concerne l'ensemble du monde musulman, et ça concerne aussi...
qu'ils se mettraient à dos, et peut-être notamment la Jordanie, l'Arabie Saoudite, qui sont des soutiens...
Mais bien plus loin, l'Indonésie, le Pakistan, enfin on serait vraiment dans un registre bien... C'est infiniment compliqué cette affaire, avec en plus deux États, la Jordanie et l'Égypte, qui sont des États qui ont fait la paix avec Israël et qui seront en première loge, c'est d'abord la Jordanie, puisque c'est la Jordanie qui est gardienne des lieux saints aujourd'hui à Jérusalem. Donc il est bien clair qu'il y aurait une résistance très forte et un vrai problème considérable. Et ça, il en a déjà conscience, j'ai l'impression. On a dû lui expliquer ça. Mais pour la colonisation, les gens de l'extrême droite vont continuer, parce que je vois mal, quand je vois les déclarations, les sous les yeux, il y a aucune déclaration. Enfin, c'est de l'eau tiède, quoi. C'est de l'eau tiède. Et par conséquent, il peut continuer son chemin, quoi.
Il nous reste 3 minutes pour aborder le point peut-être essentiel avec lequel est venu Benjamin Netanyahou, c'est le dossier iranien. Donald Trump l'a répété aujourd'hui, Pierre Razou, c'est le plus mauvais accord jamais signé. Il a dit « je vais faire encore plus pour empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire et permettre à Israël de se défendre face à la menace ».
Oui, c'est vrai, mais en même temps, curieusement, les Iraniens eux-mêmes, finalement, répondent de manière, très prudente. Et il se trouve que j'étais à Téhéran au mois de novembre après l'élection de Donald Trump, et donc j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup d'Iraniens et notamment des responsables iraniens, et j'étais étonné de voir leur attente et leur attentisme. C'est-à-dire ils disaient oui, peut-être, mais on va peut-être pouvoir négocier et discuter avec Trump. Et à court terme, de toute façon, les Iraniens disent oui, mais regardez, les outrances de Trump finalement font la politique iranienne. Donc ne nous laissons pas pousser à la faute, c'est-à-dire ne soyons pas les premiers à tomber dans le piège que nous tend Trump là-dessus, et finalement tout cela in fine se retournera contre la nouvelle administration américaine et servira nos intérêts.
Jean-Paul Chagnolot, de toute façon Trump, il ne peut pas faire plus que promettre une intransigeance ferme. Cet accord, il ne peut pas le déchirer, il ne le dit plus ça.
De toute façon, c'est un accord qui n'est pas entre les États-Unis et l'Iran.
C'est un accord, avec
les membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, avec l'Iran. Bon, et ça concerne à la fois, effectivement, le nucléaire iranien, donc la limitation de l'enrichissement d'uranium par les Iraniens en échange d'une levée progressive des sanctions, mais aussi, ça touche à toute la grande question de la non-prolifération des armes nucléaires. C'est lié au TNP, enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, là aussi, je pense qu'il va se rendre compte que il faut y aller avec beaucoup plus de prudence et d'intelligence politique. J'ajoute enfin que, de toute façon, aujourd'hui, il y a une nouvelle puissance de plus en plus au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Donc, si on agit d'une certaine façon contre l'Iran...
Israël veut
contre l'Iran, oui, mais justement, l'Iran a aujourd'hui des moyens d'action et des moyens d'intervention dans l'ensemble de la région. Donc, c'est une affaire extrêmement complexe.
Et 20 minutes pour en parler, c'était peut-être trop court. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'avoir été nos invités dans le débat de RFI ce soir à la réalisation, Jérémy Bessé. Je vous dis à demain pour un nouveau débat sur la Radio du Monde.